Vous êtes bien à l'écoute de RFI, les 15h en temps universel, 16h à Paris et à Mannheim. Le journal vous est présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Dans l'actualité, l'Allemagne à nouveau endeuillée, cette fois à Mannheim. Un automobiliste a percuté aujourd'hui des piétons en plein centre-ville. Il y a un mort et plusieurs blessés graves. Dans un instant, Pascal Thibault en direct de Berlin. La guerre en Ukraine, Kiev et ses alliés sont sous très forte pression. Ils ont tenté hier à Londres de présenter un front uni. Mais déjà, les divergences éclatent entre Londres et Paris. Paris où va se tenir sur l'Ukraine un débat sans vote à l'Assemblée nationale. Dans ce journal également, Israël menace de lancer son plan de l'enfer qui prévoit la reprise des combats à grande échelle contre le Hamas. Une épidémie de rougeole aux États-Unis et le premier vol commercial d'Ariane 6, la fusée européenne. L'Allemagne à nouveau victime d'une voiture bélier dans ce qui a toutes les apparences d'une attaque, la quatrième du genre depuis Noël. On rappelle que les précédentes avaient changé le cours de la campagne électorale qui s'est achevée récemment. Pascal Thibault, vous êtes notre correspondant à Berlin. Que sait-on sur cette probable nouvelle attaque qui s'est produite cette fois à Mannheim dans le land du Bade de Württemberg?
Eh bien, c'est à la mi-journée, un peu après midi heure locale, qu'une Ford Fiesta a foncé dans la foule, dans le centre-ville de Mannheim. Le bilan officiel donné par la police fait état actuellement d'un mort et d'un nombre non précisé de blessés, certains graves. Certaines sources font état de deux morts. Le conducteur du véhicule a été arrêté, il est blessé et à l'hôpital, d'après l'agence de presse allemande DPA, il s'agirait un Allemand. Cette nouvelle attaque intervient en pleine période du carnaval qui attire dans la partie ouest du pays de nombreuses personnes. Un défilé avait eu lieu hier à Mannheim. Cette nouvelle attaque rappelle celle, vous le disiez, des dernières semaines, qu'il s'agisse d'attaques à la voiture bélier comme sur le marché de Noël de Magdebourg ou bien à coups de couteau comme à Aschaffenbourg en Bavière récemment. À chaque fois, les auteurs étaient des migrants. Ces différentes attaques avaient placé le sujet migratoire au centre de la récente campagne électorale. Et il faut aussi rappeler que Mannheim est pour la deuxième fois le théâtre d'une tragédie en moins d'un an. Fin mai, un policier qui s'était interposé avait été tué au couteau par un Afghan qui voulait attaquer le stand d'un activiste anti-islam.
Pascal Thibault, les alliés de l'Ukraine ont du mal à parler d'une même voix. Des alliés européens pour la plupart qui ont tenté de présenter un front uni hier à Londres. Au lendemain de cette réunion au sommet, pas sûr que le résultat soit à la hauteur des attentes. Français et Britanniques ont étalé leurs divergences aujourd'hui sur la forme que prendrait une trêve en Ukraine. À en croire Londres, Keir Starmer et Emmanuel Macron ne se sont pas mis d'accord sur un projet de trêve d'un mois évoqué hier soir par le président français. Prochain rendez-vous à l'agenda diplomatique dans 3 jours. Un sommet extraordinaire de l'Union européenne se tiendra jeudi à Bruxelles. 2 grands dossiers à l'ordre du jour, le renforcement de la défense européenne et aussi le projet de nouvelle aide militaire à Kiev. Correspondance à Bruxelles de Jean-Jacques Héry.
Ce qui sera discuté au sommet de jeudi obéira aux mêmes lignes directrices que celles affirmées hier à Londres, un soutien de l'UE à l'Ukraine en coordination avec les alliés hors de l'Union, mais aussi et toujours avec les États-Unis dans le cadre de l'OTAN pour parvenir à une paix avec des garanties de sécurité. Dans ce contexte, la déclaration de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, hier à la sortie du sommet de Londres n'a surpris personne.
Après une longue période de sous-investissement, il est désormais de la plus haute importance d'augmenter les investissements de défense sur le long terme, et ceci pour la sécurité de l'Union européenne. Dans le contexte géostratégique actuel, nous devons nous préparer au pire.
La Commission présentera en effet jeudi au 27 son plan global de réarmement de l'Europe, selon Ursula von der Leyen, pour permettre aux États membres d'augmenter plus rapidement leurs dépenses militaires. Bruxelles pourrait assouplir ses règles budgétaires, et ce, alors que plusieurs pays, dont la France, doivent faire des efforts pour réduire un déficit jugé excessif. Il faudra également scruter l'attitude de Viktor Orban. Le président hongrois menace déjà de ne pas signer les conclusions du sommet qui aura lieu dans 3 jours. Lui qui appelle l'UE à discuter directement avec la Russie pour parvenir à la paix, à l'instar de ce que font les États-Unis. Jean-Jacques Héry, Bruxelles, RFI.
Et ces derniers développements sur l'Ukraine s'invitent à l'Assemblée nationale en France. Un débat sans vote a lieu en fin d'après-midi. Les différentes prises de parole doivent permettre à chacun de se positionner. La police israélienne dénonce un attentat terroriste après l'agression au couteau qui a fait un mort et quatre blessés ce matin à Haïfa, grande ville du nord d'Israël. L'assaillant, un druze israélien, a été tué. C'est le premier attentat mortel en Israël depuis le début de la trêve dans la guerre avec le Hamas le 19 janvier. Il intervient alors que la poursuite du cessez-le-feu apparaît très incertaine à l'issue de la première phase. Outre l'arrêt des livraisons d'aide humanitaire, un plan de l'enfer israélien prévoit la fin de l'approvisionnement en électricité, le déplacement vers le sud des populations tout juste rentrées dans le nord, ainsi qu'une reprise des combats à grande échelle contre le Hamas. Les précisions sur place de Sami Boukhelifa.
Dès qu'ils le peuvent, les Israéliens mettent un coup de pied dans le processus de trêve en espérant tout faire capoter, explique une source diplomatique. De nouveau, Gaza compte ses morts et ses blessés. Frappe hier et aujourd'hui à Khan Younes, tir à Rafah. C'est dans ces régions du sud de l'enclave qu'Israël souhaite encore une fois envoyer la population gazaoui. Un nouveau déplacement forcé. L'accord signé par Israël et le Hamas en janvier devait être mis en œuvre en trois phases. La première a bien eu lieu. Arrêt des combats, libération de 33 otages israéliens contre quelques 1700 détenus palestiniens. Retrait partiel des troupes israéliennes de Gaza et retour des populations déplacées dans le nord. La deuxième phase doit débuter en ce mois de mars. Elle prévoit en théorie la libération du reste des otages et doit mener à l'arrêt définitif de la guerre qui conduira à la phase 3 et à la reconstruction de Gaza. C'était sans compter sur Benjamin Netanyahou qui semble disposer de tout le soutien de Washington. Il affirme avoir reçu de la nouvelle administration américaine toutes les munitions qu'il souhaitait et qui étaient bloquées par l'administration précédente de Joe Biden. Sami Boukhelifa, Jérusalem. RFI.
Une épidémie de rougeole frappe actuellement les États-Unis. Plus de 160 cas ont été recensés déjà, essentiellement à Texas. Un enfant non vacciné est décédé. Marine de la Moissonnière, bonjour.
Bonjour.
Un tel décès, c'est du jamais vu depuis 10 ans. Ce qui a poussé Marine, le ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr., notoirement anti-vaccin, eh bien, revoir quelque peu sa position.
Oui, Robert Kennedy Jr., qui à de nombreuses reprises avait critiqué le vaccin contre la rougeole et qui avait minimisé l'ampleur de l'épidémie la semaine dernière, appelle désormais les Américains à se protéger. La décision de se faire vacciner est personnelle, précise-t-il toutefois. Un revirement et un engagement en faveur de la vaccination trop timoré, jugent des experts interrogés par le New York Times. Un épidémiologiste de l'université du Minnesota estime que les autorités sanitaires fédérales devrait prendre position plus clairement, comme lors des précédentes épidémies de rougeole. Plus de 160 cas ont déjà été répertoriés, essentiellement au Texas et au Nouveau-Mexique. Mais beaucoup d'anti-vaccins pensent que la rougeole n'est pas plus grave que la varicelle ou la grippe. Or, s'il est vrai que la majorité des enfants guérissent de la rougeole, dans un cas sur 20, cela évolue en pneumonie, dans 1 sur 1000 en encéphalite, ce qui peut rendre sourd ou créer des lésions neurologiques irréversibles. Et dans un ou deux cas sur 1000, l'enfant meurt, alors que, comme le rappellent les scientifiques, il existe un vaccin sûr et efficace contre cette maladie.
Marine de la Moissonnière, merci à vous. Nouveau développement dans la crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur, annonce que Paris prépare une liste de plusieurs centaines de ressortissants algériens au profil dangereux, des personnes qu'elle souhaite renvoyer dans leur pays. Également dans l'actualité du jour, le premier vol commercial d'Ariane 6. La fusée européenne doit décoller de Kourou en Guyane française, précisément à 13h24, heure locale. Ce sera en fin d'après-midi à Paris. Après des années de retard, elle a réussi son vol test en juillet dernier pour des expériences scientifiques et universitaires, mais sans enjeu commercial. Cette fois, la fusée emporte un satellite militaire français. Les précisions de Justine Fontaine.
En raison du retard d'Ariane 6, le satellite espion CSO-3 aura attendu près de 3 ans par rapport à sa date de lancement prévue initialement. Il est désormais en place dans la fusée à Kourou, prêt à être lancé pour prendre des photos depuis l'espace pour le compte des services de renseignement français et de plusieurs de ses alliés européens. Après un vol test réussi en juillet dernier et le retour en piste de la fusée Vega C en décembre, ce premier vol commercial d'Ariane 6 doit venir confirmer que l'Europe a de nouveau un accès plein et souverain à l'espace. Mais avec seulement 9 décollages prévus cette année, le centre spatial de Kourou reste loin, par exemple, des Américains et de SpaceX, qui a effectué plus de 100 lancements en 2024. Karine Levaux est directrice du transport spatial au CNES, l'agence spatiale française, qui gère la base de Kourou avec l'ESA, l'agence spatiale européenne.
100 lancements par an en Guyane, non, c'est pas du tout envisageable, c'est pas notre ambition non plus. Ce que l'on vise, c'est d'être en capacité de faire 30 lancements par an.
Pour ça, le centre spatial a entamé des travaux de modernisation en 2019, 140 millions d'euros financés par l'ESA, ce qui doit aussi lui permettre d'accueillir pour la première fois à partir de cette année des mini-lanceurs, c'est-à-dire de petites fusées.
Justine Fontaine est maintenant sur le Pont des Arts avec vous, Nathalie Amar, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau et à tout à l'heure. Sur le Pont des Arts, ça démarre dans 30 secondes.